Alors, mesdames, messieurs, donc l'article 47.4 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication confie, comme vous le savez, au Conseil supérieur de l'audiovisuel le soin de nommer pour 5 ans, à la majorité des membres qui le composent, le président ou la présidente de la société publique France Télévisions. Cette même loi précise d'une part que les candidatures à ces fonctions sont présentées et évaluées sur la base d'un projet stratégique, vous avez fait parvenir à l'appui de votre candidature, et d'autre part que cette nomination, je cite, se fonde sur des critères de compétences et d'expérience. En application de ces dispositions, il revient donc au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à cette nomination pour un mandat qui débutera le 22 août prochain. Et dans cette perspective, le Conseil a déterminé la procédure qu'il entendait suivre dans une résolution du 26 février dernier qui a été publiée au Journal officiel. Le calendrier de cette procédure, que nous avons souhaité la plus transparente possible, a été modifié compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Et donc, je voudrais en rappeler ici très brièvement les principales étapes. On a d'abord lancé un appel à candidature qui a été clôturé le 10 juillet dernier. À la suite de cet appel, la liste des candidatures recevables ainsi que les projets stratégiques des candidats ont été publiés sur le site du CSA mercredi dernier. Et nous auditionnons cette semaine, donc aujourd'hui et demain, les candidates et les candidats dont les dossiers ont été jugés recevables dans un ordre qui a été déterminé par un tirage au sort. Et à l'issue de ces auditions, donc, nous prévoyons de procéder à la nomination par une décision motivée qui interviendra au plus tard ce vendredi 24 juillet. Voilà, alors dans ce cas, je vais vous céder dans quelques instants la parole pour une présentation liminaire d'une durée maximale de 30 minutes. On a pris naturellement tous connaissance de votre projet stratégique. Présentation liminaire qui pourrait être suivie de quelques questions de la part des membres du collège. Cette première séquence étant d'une durée maximale d'une heure. Cette partie de l'audition donc est publique, retransmise sur notre site et accessible donc aux personnes en situation de handicap. Cette première partie donc sera suivie d'une discussion avec les membres du collège, à nouveau pour une séquence d'une heure, mais cette seconde partie se déroulera, elle, à huis clos, conformément à une décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2000. Et donc, je vous donne la parole pour 30 minutes maximum.
Je vous remercie. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, c'est un honneur et un plaisir de présenter ce projet stratégique dans le cadre de la procédure engagée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. France Télévisions, c'est l'ossature, le poumon et le cœur de l'audiovisuel en France. Par ses moyens propres et sa politique de commande, son rôle est déterminant pour le secteur, la culture et pour les citoyens. Mon projet veut donner une nouvelle impulsion à la création, insuffler de l'innovation, de l'envie et de la fierté aux collaborateurs de France Télévisions. Management et gouvernance doivent servir la création et non la brider. Ils doivent libérer les énergies. France Télévisions doit redevenir une entreprise créative où le plaisir de travailler doit l'emporter. Inventer le média public de demain, c'est exaltant et c'est ce sentiment qui doit dominer dans l'entreprise. Avec l'entreprise unique, France Télévisions vient de connaître plus d'une décennie de réorganisation qui l'ont fatiguée, voire dans certains cas, harassée. La raison d'être de France Télévisions, la création de contenu, a perdu en intensité. Il faut retrouver cet état d'esprit dans un contexte particulier. La France vient de connaître une crise sans précédent à possible réplique. Elle a exigé de la part de tous un véritable effort de solidarité. Au cours de cette période, France Télévisions a rencontré l'adhésion du public grâce à une offre renouvelée dont chacun a compris soudain qu'elle avait tout son sens. Les collaborateurs de France Télévisions ont prouvé qu'il était possible de proposer une télévision de proximité, ouverte, curieuse, culturelle, aidante et solidaire. Avec son offre de programmes, où l'information, la musique, le théâtre et les programmes éducatifs ont occupé une place essentielle. La télévision publique, que l'on aimerait voir à l'œuvre constamment, non seulement en période de pandémie, a su faire la différence. J'ai intitulé mon projet « Faire la différence ». Il s'agit du défi essentiel de France Télévisions pour le présent et pour le futur. La concurrence est multiforme. L'attention est sollicitée de manière constante. Les plateformes de vidéos à la demande extra-européennes montent en puissance. Dans 5 ans, le véritable concurrent de France 2 sera plus Netflix que TF1, plus YouTube que l'ensemble de la télévision traditionnelle. Vous savez que ce n'est pas de la science-fiction. Cette réalité vaut déjà pour la frange jeune de la population. Pour pérenniser son existence, France Télévisions devra donc affirmer sa différence. Je viens de l'autre côté de la Seine, à quelques hectomètres de la salle où nous nous trouvons aujourd'hui. En étant innovant sur le plan éditorial, avec de l'audace dans sa stratégie numérique, Radio France n'a jamais réuni autant d'auditeurs. Mieux, elle n'a jamais autant compté d'auditeurs de moins de 35 ans, alors même que le média radio a vieilli. Le point d'équilibre entre popularité et exigence de qualité, entre culture et divertissement, présence de talents reconnus et figures émergentes, ce n'est pas une utopie. Ce peut être, ce doit être la réalité pour France Télévisions. Il s'agit tout d'abord de renforcer la confiance auprès des publics, fidèles comme occasionnels, de l'entretenir, de la chérir. C'est un enjeu culturel et démocratique. Pourtant, la défiance manifestée par les Européens et les Français vis-à-vis des médias nous interpelle. Une partie de la population ne croit plus dans le récit des médias, assimilé à une caste proche du pouvoir. En face, les réseaux sociaux répandent d'autres types de récits auxquels ce public accorde du crédit. Le manque de confiance concerne le système, les institutions, le projet de société. Les médias, France Télévisions, sont au cœur de ces enjeux. Les Français doivent pouvoir compter sur France Télévisions pour disposer des repères essentiels qui les aident à comprendre le monde et à se forger leur opinion. Je reviendrai sur le rôle de l'information pour gagner la confiance. Mais l'une des causes du désamour est identifiée. L'insuffisante proximité, la mauvaise représentativité, le manque de diversité des antennes et des programmes. Nous avons fait des progrès dans une meilleure représentation des femmes, mais un long chemin reste à parcourir. Elles sont entendues et vues comme témoins, plus que comme expertes. Les personnes en situation de précarité ou de handicap, les habitants des zones périurbaines, les profils socioculturels non blancs restent insuffisamment représentés. La confiance progressera si les téléspectateurs se retrouvent dans la télévision qui leur est proposée, s'ils ont le sentiment de l'inspirer, voire d'en faire partie. France Télévisions comme entreprise n'a pas d'autre choix que de devenir elle-même plus diverse. Diversité sur les antennes, diversité interne, l'expérience montre que la première est impossible sans la seconde. Je propose d'agir fortement pour le renforcement de la diversité, sur les antennes, dans le domaine de l'information, en luttant contre les préjugés et les a priori, pour donner de la France et de ses territoires une image plus juste. Pourquoi ne parle-t-on de la Seine-Saint-Denis que par les faits divers ? Dans le domaine de la fiction, en diversifiant les appartenances socioculturelles des héroïnes et des héros. Il faut d'autres Capitaine Marlowe, d'autres Candice Renoir, lancés en 2015, d'autres Scam, séries venues de Norvège, qui ont inspiré leur public. Pour ce faire, France Télévisions doit entrer en conversation avec les Français. Il faut échanger, dialoguer, s'inspirer de ce qu'ils vivent. Je propose de renouveler régulièrement les consultations citoyennes, comme Ma Télé, Ma Radio Demain, d'opérer une veille assidue sur les réseaux sociaux, de multiplier les rencontres avec le public à l'occasion des journées d'antenne décentralisées, de donner plus de moyens digitaux aux médiateurs, de créer une plateforme d'échange autour des émissions qui suscitent le débat. La télévision publique doit se situer sur le même pied que les publics auxquels elle s'adresse en conversant avec eux, pour travailler de concert et co-construire le projet de demain. La condition de la réussite, c'est la diversité dans l'entreprise. Je propose d'appliquer, dans le sens de la diversité, l'accord collectif de mai 2019, qui prévoit près de 1 000 recrutements à horizon 2022. La nécessaire transformation digitale doit aller de pair avec une plus grande diversité et des indicateurs de suivi. Je propose de diversifier la composition des rédactions, moyen le plus sûr de parvenir à une information plus équilibrée. Je propose de favoriser la culture d'inclusion et d'infusion. Le succès numérique de quotidiens comme Le Guardian ou le New York Times, c'est d'avoir installé des pôles de compétences numériques au sein même des rédactions. Certains cursus doivent permettre aux managers et aux collaborateurs de métiers différents de se rencontrer, d'infuser ensemble. C'est la seule manière d'obtenir une meilleure efficacité collective. Plus encore, la diversité sera la valeur cardinale de la pratique managériale de l'entreprise. Je veillerai à ce que France Télévisions applique la règle 50-50, voulant qu'à chaque niveau de management, la parité femmes-hommes soit appliquée, qu'elle favorise une égalité stricte des rémunérations à même niveau de responsabilité, qu'elle représente plus fidèlement les composantes socioculturelles au sein du management intermédiaire et au niveau du top management. Je propose qu'on fasse de la recherche de diversité un des indicateurs d'évaluation des cadres. Il s'agit de leur responsabilité. Je propose de faire progresser l'emploi des personnes handicapées en mettant à leur disposition des outils adaptés à l'exercice de tous les métiers. Le renforcement de leur visibilité sur les antennes créera un choc culturel qui retentira aussi à l'interne. Je voudrais aborder plus généralement le rôle de l'information dans la restauration de cette confiance. Mon projet repose sur 4 idées clés. La vérification de l'information. Il faut renforcer le rôle de France Info comme agence de vérification recevant, vérifiant et distribuant les nouvelles sur l'ensemble des canaux du groupe. Le partenariat avec Radio France sera évidemment essentiel. Je propose que l'importance des journaux télévisés soit confortée. Leur rôle est majeur pour prodiguer au plus grand nombre l'information la plus simple, mais aussi la plus enrichie. Je propose un renforcement de l'investigation. Elle signe l'indépendance du service public. C'est un point fondamental de mon projet. Je souhaite que soit mise en place une direction de l'investigation de la rédaction de France Télévisions, bizarrement externalisée aujourd'hui. L'investigation doit irriguer l'information de France Télévisions et servir l'ensemble de ses supports. La création de pôles d'expertise spécialisés doit être plus forte, en politique, mais aussi en économie, dans les nouvelles technologies ou sur l'écologie. Je veux renforcer au sein de la rédaction des pôles thématiques couvrant les antennes TV et digitales avec des incarnations appropriées en proximité avec le public. Je suis enfin très clair sur l'arrêt nécessaire des programmes d'infotainment qui brouillent les codes et les repères des téléspectateurs par un mélange des genres qui n'apporte rien sinon des reprises de propos polémiques dans la presse. La différenciation éditoriale est essentielle et elle fait partie de mon projet comme un des axes majeurs. C'est dans tous les genres de programmes que le service public doit marquer sa différence par rapport aux chaînes commerciales ou aux plateformes de vidéo à la demande. Sinon, sa légitimité sera remise en cause. Première différence, la plus structurante, France Télévisions doit s'adresser à tous les publics, par opposition aux chaînes commerciales et contrairement aux plateformes et réseaux sociaux qui visent des publics ou des individus donnés. Cet enjeu, c'est celui de la distribution. Mon projet va dans le sens d'une télévision populaire qui doit atteindre l'ensemble des publics, des plus fidèles, souvent plus âgés, aux plus occasionnels, souvent plus jeunes. Pour servir les premiers, il est indispensable, de moderniser la télévision numérique terrestre, vecteur de diffusion universelle qui garantit souveraineté et neutralité technologique. En ce sens, France Télévisions doit être motrice des expérimentations qui verront le jour et permettront la mise en place à terme de l'ultra haute définition. Pour servir les seconds et les publics qui regardent la télévision de façon linéaire, mais aussi à la demande, il faut une distribution agile et équilibrée entre les plateformes propriétaires comme France.tv et les plateformes externes. Il est positif de privilégier les plateformes propres de France Télévisions. Mais il faut aussi garantir la présence des chaînes et de leurs programmes phares sur les plateformes tierces ou les réseaux sociaux pour aller chercher les nouveaux publics là où ils sont. Sur YouTube, sur Instagram, sur Snapchat et TikTok pour toucher les plus jeunes. Il faut s'en servir comme plateforme de visibilité pour faire revenir les publics vers l'offre de France Télévisions. Cette stratégie des publics que j'ai mise en place à Radio France a fonctionné. Elle vaut aussi pour France Télévisions. Atteindre et toucher tous les publics, c'est agir de manière globale pour les renouveler. Mon objectif premier, c'est de rajeunir le public de France Télévisions, dont la part d'audience sur la population âgée de 4 ans et plus, 28%, masque un auditoire vieillissant et plus âgé que celui des télévisions privées. Mes propositions sont claires. Tout d'abord, il faut penser globalement le développement des marques chaînes et intégrer les offres linéaires et numériques. Il est coûteux et inopérant de développer des plateformes web déconnectées des marques des chaînes linéaires. Il est illusoire de penser qu'elles joueront un rôle structurant pour renouveler les publics, faute de la puissance nécessaire. Il faut penser globalement l'offre de chaque chaîne en rapprochant antennes et programmes et en les développant sur tous les supports. Cette stratégie permettra, par exemple, de concevoir et d'intégrer Oku sur France 5 et pour France 5, de faire en sorte que France 5 porte Oku dans sa stratégie marketing, sa présence sur les réseaux et les plateformes, et que la plateforme Oku incite en retour ses fans à se connecter avec la chaîne. Remonter la valeur éditoriale dans les chaînes est essentiel si l'on veut que le monde linéaire et le monde digital s'enrichissent mutuellement et renouvellent la structure d'auditoire de France Télévisions. Le renouvellement des genres télévisuels portera également le rajeunissement des antennes. Je propose, par exemple, de dédier une case de fiction de France 2 à une fiction typée et ciblée, qui permettra de découvrir des milieux culturels et sociaux rarement traités par la télévision publique, comme parviennent à le faire Netflix ou HBO. L'outre-mer devra en bénéficier afin de lui donner une plus grande visibilité sur la chaîne amirale du service public. Je propose de renouveler le genre du divertissement par des concours revus et corrigés. Je propose de renouveler le genre documentaire avec des formats plus immersifs, comme Nus et culottés diffusés sur France 5. Autre levier pour rajeunir le public, consacrer une offre, France 4, comme offre originale consacrée aux adolescents et aux jeunes adultes. Si sa suppression hertzienne était confirmée, elle sera développée en numérique. Le deuxième axe de différenciation de service public, du service public et de France Télévisions doit être de proposer une diversité de choix aux téléspectateurs grâce à une gamme de chaînes et d'offres mieux identifiées et plus complémentaires. À tout moment, à tout instant, France Télévisions doit faire la différence. J'ai précisé dans mon projet leurs identités respectives. France 2, la plus généraliste, la plus ouverte des chaînes et des offres télévisuelles. France 3, l'offre globale, hertzienne et numérique de proximité. France 4, entièrement consacrée aux adolescents et jeunes adultes. France 5, l'offre familiale centrée sur l'éducation et la découverte, destinée aux enfants, parents et grands-parents. Dépositaire du lien générationnel. Elle sera consacrée à l'animation, au documentaire, aux magazines de découverte et aux films. France O, vitrine ultramarine, grâce au pacte de visibilité qui garantit à l'outre-mer une visibilité sur les antennes de France Télévisions, aux chaînes régionalisées et à une offre numérique spécifique pour chaque territoire. France Info, véritable chaîne d'information en continu, opérant dans le tempo de l'info rapide, est capable de proposer une valeur ajoutée grâce aux experts de l'ensemble de la rédaction et des partenaires de l'audiovisuel public. France.tv, qui doit permettre à chacun de créer sa propre télévision publique grâce à une plateforme personnalisable opérant en mode connecté. J'ai longuement évoqué France 2 dans mon projet. Pour être synthétique, je pense que France 2 doit devenir l'équivalent sur tous ses supports de ce qu'est devenu France Inter dans la radio et dans l'audio. La plus généraliste de toutes les chaînes généralistes, avec une présence forte de l'information, du débat public, de l'international et d'une présence renouvelée de la culture. Grâce à cette stratégie, Inter a dépassé RTL, qui régnait jusqu'alors sur le paysage de la radio. France 3 doit devenir une offre globale de proximité. C'est le lien avec tous les habitants des territoires. Cette mise en place nécessite une coopération plus forte avec France Bleu pour compléter l'offre matinale et créer une offre numérique de plein exercice, constituée d'informations, de services et d'agendas qui sera imbattable. Il faut aussi clarifier son offre d'information, en accentuant la présence de l'info locale pour mieux la différencier de l'offre de France 2. Je propose que le passage du journal régional d'information de 19h de 30 minutes à 1h soit mis à l'étude dès la rentrée de septembre. Le troisième axe de différenciation du service public, c'est de porter très haut l'information, les disciplines culturelles, artistiques et éducatives. Je souhaite que soit créé un magazine d'enquête hebdomadaire ou bimensuel diffusé sur France 2. Produit par la direction de l'investigation. Ce magazine d'enquête se prolongera en digital avec un espace d'échange pour pouvoir discuter, échanger, débattre avec les téléspectateurs et les spécialistes. En matière de musique classique et de spectacle vivant, je propose que soient créées 3 cases de programmation en première partie de soirée. Une case de captation hebdomadaire sur France 5, une case mensuelle sur France 2 ou sur France 3, une case hebdomadaire sur France 4 consacrée aux musiques et cultures urbaines. Je doublerai le budget dédié à la musique et au spectacle vivant, qui passera à 30 millions d'euros par an. Et je souhaite de tout cœur que l'action renforcée de France Télévisions dans ce domaine soit élaborée avec le concours naturel de Radio France, ses formations musicales, France Musique et France Culture. Le quatrième axe de différenciation de l'offre de services publics, c'est l'audace et l'innovation. Il s'agit d'innover en synergie avec les projets qui doivent renouveler les publics. France Télévisions doit en être le fer de lance. Il faut rechercher les nouveaux talents et les nouvelles incarnations. Commencer par les faire émerger sur des chaînes ou horaires moins exposés pour finir par les imposer au cœur de l'offre éditoriale. Il faut être inventif dans l'horaire de démarrage des premières parties de soirée. Il serait suicidaire, pour des raisons d'audience, de démarrer toutes les premières parties de soirée à 20h35. Mais pourquoi démarrerait-elle chacune à plus de 21h sans prise en compte des modes de vie des publics de chaque chaîne ? Je propose que le prime time de France 5 démarre à 20h35 et que la question du démarrage de la soirée soit mise à l'étude sur France 3. Les deuxième et troisième parties de soirée doivent marquer leurs différences. France Télévisions doit proposer en alternance, grâce à la complémentarité de ses chaînes, une offre enrichie de magazines et de documentaires. Chaque soir, le public doit avoir accès à un magazine ou à un documentaire de société, de culture, d'écologie ou de santé. Enfin, il est nécessaire que des genres essentiels comme le cinéma, vitrine de la création française, trouvent de nouvelles fenêtres de diffusion qui soient fortement éditorialisées et qui complètent les fenêtres actuelles très grand public. Enfin, le travail sur les formats doit être accentué. Il faut oser, tester, prototyper. L'innovation a un coût, mais c'est un investissement qui peut être partagé. Travaillons sur les formats de demain avec les partenaires de l'audiovisuel public et de toute la sphère francophone. Partageons leur développement, partageons leurs propriétés dans les formats documentaires et de divertissement. Utilisons ce que nous avons en commun, la langue et des cultures très proches, pour faire connaître la créativité de la francophonie. Appuyons-nous sur la structure existante, les médias francophones publics, pour mener les travaux de développement. Proposons à TV5 Monde et à France Média Monde de diffuser des formats de programmes et d'informations partout sur la planète. Défi sociétal, avec la meilleure représentation de la diversité. Défi éditorial, avec une différenciation accentuée. Ces ambitions pour voir le jour doivent s'appuyer sur une stratégie industrielle, créative et ambitieuse. Elle doit s'appuyer sur des ressources pérennes, sur la consolidation du rôle de France Télévisions comme principal acteur national et sur le développement de son rôle international. La question de la trajectoire financière est évidemment posée. Elle constitue la trame de fond de la période qui va s'ouvrir. Sur 5 ans durée du mandat, c'est 15 milliards d'euros qui sont en jeu pour que la télévision publique atteigne les objectifs de son projet stratégique. Avant la crise du coronavirus, la trajectoire financière imposait d'importantes réductions budgétaires, jusqu'à 160 millions à l'horizon 2022, avec une baisse de la contribution à l'audiovisuel public et des économies à générer. Nous savons que la trajectoire 2020 sera tendue et ne sera pas tenue en raison de la hausse des dépenses palliant les effets de la crise sanitaire et du manque à gagner publicitaire. Une partie importante de la réponse appartient à l'État, qui fixe les modalités et le montant de la contribution à l'audiovisuel public. Il est nécessaire qu'à la rentrée de septembre, France Télévisions puisse se projeter dans le futur avec la visibilité nécessaire. L'autre partie de la réponse appartient directement à France Télévisions, qui doit trouver le juste équilibre entre les économies à réaliser grâce à une meilleure efficience, en maintenant à tac les investissements en matière de programme, mais aussi les marges de manœuvre supplémentaires qui peuvent être dégagées du côté des recettes. Il faut réfléchir sans tabou à l'évolution de la publicité sur les chaînes de France Télévisions. Il ne s'agit ni d'augmenter le volume global de publicité, ni bien sûr de réintroduire la publicité autour des programmes pour enfants, mais de réfléchir à son efficacité, au confort d'écoute des téléspectateurs, à l'impulsion nécessaire qu'il faut donner aux produits propres ou neutres pour l'environnement. Est-il préférable de maintenir les 20 à 25 minutes de programmes courts diffusés entre 20h30 et 21h, pensum pour les téléspectateurs, ou de réintroduire un écran de publicité classique à partir de 20h35 d'une durée de 3 à 4 minutes qui pourrait rapporter environ 50 millions d'euros au groupe? C'est ce type de discussion de bon sens qu'il faut engager avec l'État sans ornière. L'autre question concerne la publicité et l'environnement. Je suis partisan de favoriser les produits à effet neutre ou positif pour l'environnement. Le service public doit agir pour que les agences médias et les annonceurs orientent ainsi leurs investissements. Je propose, dès la rentrée de septembre, de mettre cette mesure à l'étude. Pour conforter les ressources commerciales, il est nécessaire d'augmenter les recettes liées à la production. Je crois qu'il est très intéressant d'enrichir l'expérience de la filiale France TV Studio, dont le rôle dans la production pour les antennes s'est élargi. Si son activité continue de croître en associant les producteurs privés, la génération de recettes propres pourra s'affirmer en bonne intelligence avec ses acteurs audiovisuels. Il faut aussi accroître les recettes liées à la diversification. Nous serons créatifs dans la recherche de ressources propres supplémentaires. Trop souvent, la réflexion intervient en aval du processus de création et de production, alors que le développement devrait intervenir en amont, au moment où se définissent l'ambition des programmes et la répartition des droits d'exploitation. J'ai pu mettre en œuvre ce type de stratégie à Radio France, qui a porté ses fruits. Il faut une dynamique similaire à France Télévisions. Dynamisme et créativité dans le développement des recettes sont essentiels pour le maintien de la trajectoire, mais aussi plus globalement, pour le secteur tout entier. Avec plus de 450 millions d'euros investis dans la création, France Télévisions joue un rôle essentiel dans son écosystème, tant vis-à-vis de l'actionnaire que de la filière audiovisuelle, cinématographique et du spectacle vivant. Je veillerai à ce que l'équilibre soit maintenu dans la politique de commande entre les producteurs audiovisuels puissants qui se sont structurés fortement ces derniers temps et les producteurs de taille plus modeste qui génèrent un tissu de production dynamique, créatif et agile. Je serai très vigilant sur le maintien de la souveraineté de France Télévisions. Le groupe ne peut pas se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis de tel ou tel groupe de production dans un genre de programme donné. Nous devons avoir une démarche responsable dans le soutien apporté aux producteurs qui comptent sur France Télévisions pour assurer la vie de leur entreprise. Je lancerai dès septembre une réflexion permettant de déterminer les règles applicables pour encadrer ou plafonner le rôle et la place des uns et des autres. Je veillerai également à l'équilibre dans la stratégie d'engagement pluriannuel de France Télévisions dans les différents genres de programmes pour l'activité de production qui est évidemment essentielle. Je renforcerai l'éthique et la transparence dans l'engagement des commandes de production qui sera l'une de mes priorités. France Télévisions doit bien sûr entretenir une politique de lien direct avec les producteurs pour mettre à l'antenne des programmes à fort potentiel. Mais il faut aussi que ce développement se fasse dans le cadre d'appels à projets innovants. Il faut ouvrir la réflexion éditoriale en demandant aux créateurs de penser hertzien et numérique, linéaire et non linéaire. Nationale, la stratégie industrielle de France Télévisions doit être aussi internationale. Un Big Bang doit avoir lieu en la matière. Mon projet repose sur deux axes. Il est urgent tout d'abord d'amplifier les coproductions internationales avec Arte, les médias de service public, francophones et européens. Le marché et les usages s'internationalisent. Les exemples de coproductions réussies dans le nord de l'Europe démontrent leur efficacité. Il faut capitaliser sur les médias francophones publics et l'Union européenne de radio-télévision d'autre part. En miroir, je propose de travailler sur un projet de développement de plateformes européennes de vidéos à la demande. Imaginons un instant que sur une même plateforme, des abonnés aient accès aux meilleures fictions et documentaires produits par France Télévisions, Arte, la BBC, la RAI, la RTVE, nos confrères francophones. Si l'on additionne les moyens que l'ensemble de ces opérateurs consacrent aux programmes de stock, on se rapproche des budgets de Netflix. Je propose donc que France Télévisions entame dès la rentrée de septembre, dans le cadre de l'UER, avec Arte, une réflexion approfondie sur ses composantes éditoriales, marketing et budgétaires. Le troisième axe de la stratégie industrielle de France Télévisions repose sur les synergies avec les entreprises de l'audiovisuel public. Je les ai évoquées au fur et à mesure de cette intervention. Elles sont indispensables pour assurer leur mission commune et mieux employer la ressource publique qui se raréfie. Elles doivent s'effectuer sans hégémonie, au bénéfice de chacun des acteurs qui compte des forces spécifiques et complémentaires sur lesquelles l'ensemble de l'audiovisuel public, pour devenir plus fort, doit s'appuyer. Le quatrième défi de mon projet, c'est celui de l'entreprise. Je voudrais le rappeler ici, dans les quelques minutes qui me restent. Tout d'abord, la gouvernance sera mise au service de projet. J'ai commencé mon exposé en exprimant la volonté de restaurer le plaisir et la fierté de travailler à France Télévisions, après la décennie de réorganisation et les 3 mois de crise sanitaire qui l'ont durement éprouvé. je ne compte pas bouleverser l'entreprise. D'autres modèles structurants d'organisation existent, je le connais bien, grâce à mon expérience au sein de l'Union européenne de radiodiffusion. Mais je veux adapter et ajuster la gouvernance de manière pragmatique pour que le présent projet devienne une réalité. Pour donner à chaque chaîne une capacité à agir sur l'ensemble de leur développement, seront nommés, sous l'autorité de la Direction générale des antennes et des programmes, des éditrices et des éditeurs. Ils auront en charge la politique éditoriale à 360 degrés de leurs marques, programmes, antennes hertziennes et numériques. Des équipes numériques seront installées au sein des chaînes et des rédactions pour favoriser la culture d'infusion. J'ai également précisé la manière dont le renforcement de la diversité sera mis en œuvre, dont la gouvernance sera organisée pour favoriser l'efficacité de la prise de décision. Il faut donc adapter la gouvernance plutôt que de procéder à des réorganisations drastiques. Le deuxième point pour l'entreprise, c'est le projet social, qui reposera sur le consentement et la responsabilité. Mon projet est extrêmement simple. Il s'agit de forger une culture d'entreprise motivante pour les managers et les collaborateurs qui permettent la mise en place du projet collectif et la réussite de leur parcours professionnel. Le consentement des femmes et des hommes travaillant au Centre de France Télévisions les engagera aussi collectivement et individuellement. Il s'obtiendra à travers différents leviers. L'écoute, le respect, l'autonomie, l'équité, l'action collective. Le deuxième principe, c'est la responsabilité dans l'accomplissement de leur mission, sur laquelle je vais revenir. Ces principes vont être mis en œuvre concrètement. En premier point, j'encouragerai les méthodes et les outils 3.0 en développant une culture d'entreprise partagée. Il faudra revisiter les circuits d'information et hiérarchiques classiques pour encourager la confiance et l'autonomie en comptant sur la capacité des équipes à s'organiser elles-mêmes et à partager les connaissances. L'organisation du travail sera réformée pour encourager la mise en place des modalités de travail qui permettent d'alterner travail à distance et en présentiel, sans provoquer de rupture entre les deux modes de fonctionnement. Les collaborateurs ne sont pas des cyborgs, il faut donc trouver le bon équilibre. L'encouragement du télétravail fera l'objet d'une négociation avec les partenaires sociaux dès la rentrée de septembre 2020, avec l'ambition d'aboutir à un accord dès la fin novembre. Ce modèle collaboratif nous conduira aussi à reconsidérer les codes de management en plaçant la responsabilité dans les mains de chaque membre de l'équipe. Le rôle du manager verra son rôle évoluer. Impulseur de projet, il aura pour mission première de détecter les aptitudes de ses collaborateurs et de favoriser leur développement personnel. Je renforcerai l'esprit d'innovation, et la culture entrepreneuriale en poursuivant l'organisation de concours d'accélération de l'innovation, en ouvrant les champs de recherche et de développement de France Télévisions aux start-up, notamment via les applications ouvertes. Qu'est-ce que l'esprit d'entreprendre des collaborateurs ? C'est en fait simple. C'est la volonté de mener à bien les projets. C'est être responsabilisé sur des objectifs. C'est se sentir soutenu dans la volonté de changement. C'est faire en sorte que la volonté d'entreprendre soit intégrée dans l'évaluation des cadres et des collaborateurs. Le dernier axe de mon projet social sera d'assurer la meilleure gestion des carrières par la mobilité et par la formation. Mon projet est assez précis dans l'encouragement de l'ensemble de ces mesures, de même que sur la nécessité de renforcer la formation qui va être forcément stratégique dans la mesure où l'entreprise se transforme, où un nouveau projet doit être mis en œuvre et où le contexte Covid va peser beaucoup. Il faut compter sur l'université. Il faut compter sur les formations réalisées à l'extérieur. Mon projet repose donc sur 4 objectifs, j'en viens à ma conclusion. L'incarnation de la diversité, la différenciation, un projet industriel ambitieux et un projet d'entreprise visant à faire de France Télévisions un groupe de référence. La télévision a structuré ma personnalité. Grâce à elle, j'ai pu découvrir l'impact planétaire de l'action humaine sur son environnement. Les grands documentaires animaliers de Jacques Perrin, les coproductions avec la BBC, les opérations Okavango, diffusées sur TF1, je suis certain que des millions de Français ont suivi le même itinéraire. J'ai découvert l'importance de l'accomplissement de soi à travers les grands événements sportifs, ou découvert Ondine de Jean Giraudoux, interprétée par Isabelle Adjani. À maints égards, je suis un enfant de la télévision. Mais les publics les plus jeunes empruntent des chemins différents.
Je vais vous demander de conclure, s'il vous plaît.
Je suis en train de conclure, tout à fait. Je voulais finir en disant que je ne sollicite pas cette nomination pour occuper un poste, mais pour l'habiter. Ça correspond à mon goût pour le management et à ma passion pour l'objet et le sujet télévisuel. Je veux concilier l'ambition et puis les chiffres, l'objectivation, la gestion, qui demeurent bien sûr des traceurs indispensables pour prouver l'utilité, la légitimité et la meilleure utilisation possible de l'argent public. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup de votre présentation. Donc, je vais me tourner vers les membres du collège qui vont sûrement souhaiter vous poser quelques questions. Nicolas Curien.
Merci. Oui. Avec le regard particulier que vous confèrent vos fonctions actuelles, est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans le détail concernant les coopérations, synergies entre France TV et Radio France ? Notamment, je pense aux matinales communes, à France Info, peut-être aussi au podcast. Et finalement, quelles synergies et quelles économies on peut attendre d'une telle coopération ?
Alors, je pense que les synergies vont être au cœur des années à venir. Il est toujours compliqué de savoir si ce genre de synergie peut produire des économies substantielles. C'est toujours un point d'interrogation avant qu'il faut les faire pour s'en rendre compte. Mais il y a des domaines évidents qui permettront d'améliorer le service rendu au public, et je crois que c'est ça l'essentiel. J'ai évoqué dans mon projet, vous l'avez cité, le rapprochement entre France Bleu et France 3 pour la création des matinales communes. Je pense que c'est un bon projet et je pense que plus globalement, les synergies doivent être encouragées, à la fois sur l'antenne hertzienne de France 3 et de France Bleu, mais aussi sur le numérique. Je suis partisan de créer une offre numérique de plein exercice autour de France 3. Elle ne pourra avoir lieu que s'il y a une synergie entre les deux entreprises sont plus fortes. Deuxième sujet de bon sens que j'ai évoqué, c'est le domaine du spectacle vivant et de la musique. Il suffirait de peu de choses et pas de mesures structurelles compliquées pour que l'offre de musique classique et de spectacle vivant de France Télévisions soit enrichie en faisant appel à Radio France, qui a un vivier extraordinaire sur la musique, bien sûr sur la musique classique, mais aussi sur les musiques urbaine avec la création de MOVE. Sur France Info, je propose d'aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, de deux manières différentes. D'une part, de faire de France Info le cœur de l'information en continu du service public, donc de généraliser le rôle d'agence que France Info a aujourd'hui en radio pour qu'il couvre l'ensemble de la sphère Radio France et France Télévisions, et d'autre part, pour faire en sorte que son management soit plus, cohérent, synergique. Aujourd'hui, les choses fonctionnent, mais ça fait 4 ans que France Info a été créée, et je pense qu'il est temps de passer à une étape supplémentaire.
Et les podcasts ? Vous envisageriez, par exemple, des podcasts France Télévisions ?
Mais je crois que, sur ce point, il faut compter sur la force respective des entreprises. Et sur les podcasts, il me semblerait assez logique, par exemple, que le podcast de la Grande Librairie soit repris par l'application Radio France. À l'inverse, MOVE, qui a une offre vidéo importante, pourrait trouver sa place beaucoup plus fortement sur France.tv ou sur une plateforme qui s'y rapporte. Je crois qu'il y a des vraies complémentarités, entre le son et l'image. Et de mon point de vue, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de mettre des synergies qui permettent à chacun de progresser aussi dans son domaine.
Nathalie Sonnac.
Merci, Monsieur le Président. Concernant la gouvernance de l'entreprise, est-ce que vous garderiez celle actuelle dans la distinction entre deux pôles, la direction des antennes et la direction des programmes ? Ce serait ma première question. Et ma seconde question concerne en fait la référence que vous faites, page 15, à l'accord de rupture conventionnelle collective, qui prévoit donc le départ de 2000 salariés, mais l'embauche de 1000 personnes. J'aimerais savoir, ce qui n'est pas tout à fait précisé dans votre dossier, quelle ventilation structurelle vous prévoiriez en matière de recrutement ? Est-ce que vous engagez aussi de nouvelles personnes sur des métiers qui encore n'existent pas, ou plus des métiers tournés vers le... Je pense à la data ou ingénieur. Et finalement, au total, ça fait quelle structuration ? Quelle ventilation de la structuration, pardon.
Alors, pour ce qui concerne la rupture conventionnelle collective, ce n'est pas exactement son nom technique. En tout cas, dans les accords, elle n'est pas appelée ainsi. Mais enfin, on peut considérer que, que c'est assez proche. Je pense que le projet jusqu'à présent a vraiment été vu comme le moyen d'opérer pour France Télévisions sa transformation digitale. Et donc, à l'évidence, il y a un certain nombre de métiers qui n'existent pas dans nos entreprises et qu'on doit donc intégrer. Et on n'a pas énormément de community manager, il n'y a pas énormément de web design, il manque des compétences spécifiques sur le numérique et il me paraît assez logique que le recrutement se fasse dans ces secteurs. Je pense cependant qu'il ne faut pas le limiter à cette ambition digitale qui est fort légitime. C'est ce que j'ai expliqué dans mon exposé. Je crois qu'il faut se saisir de l'occasion de cette rupture conventionnelle collective pour renouveler dans différents autres corps de métiers le corps social de l'entreprise. Je pense que dans des métiers qui sont des métiers de création, notamment dans le journalisme, je pense qu'il doit y avoir une place pour recruter des journalistes de générations autres, formés peut-être dans des écoles différentes, pour pouvoir remplir l'objectif de diversité que je citais.
Et concernant la gouvernance de l'entreprise ?
Alors, pour la gouvernance de l'entreprise, je ne suis pas partisan d'une séparation entre les antennes et les programmes. Ce que j'ai expliqué dans mon projet, c'est de dire qu'il faut remonter la valeur éditoriale dans les chaînes. Pour remonter cette valeur éditoriale, il est nécessaire que l'antenne, par sa programmation, les antennes, par leur programmation, soient rejointes par les programmes. Je pense que c'est pour ça que j'ai appelé cette fonction une fonction d'éditeur, parce qu'elle me semble le plus à même, on sait ce que ça veut dire en presse. C'est quelqu'un qui est responsable de la ligne éditoriale et de la manière de l'appliquer. Donc je pense que ce n'est pas une division qui est très facile. Là, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans le détail de l'organisation actuelle, parce que entre les organigrammes et la réalité de la gouvernance, on sait qu'il y a souvent du décalage. Mais sur le fond, je ne crois pas que ce soit une bonne solution. En revanche, je suis tout à fait favorable au maintien d'une direction des antennes et des programmes centralisée qui est le pouvoir hiérarchique sur les éditrices et les éditeurs dont je viens de décrire le profil de poste.
Merci beaucoup.
Jean-François Marie.
Oui, à un moment de votre rapport, pour précisément la page 27, vous affirmez qu'il faut, je vous cite, penser globalement le développement linéaire et délinéarisé au niveau de chaque marque de chaîne. Et vous citez des exemples, Roku, marque pour les enfants, bien connue, il faudrait que ça soit programmé sur France 5, slash, pour les adolescents, sur France 2 ou sur France 4, dès lors que France 4, évidemment, serait maintenue. Lumni sur France 5. Est-ce que vous pourriez préciser votre propos ? J'avoue que l'idée m'a paru intéressante, mais j'ai du mal à la concrétiser.
L'idée,
elle marque en tout cas un changement par rapport à ce qui se fait,
oui,
si
tout
je comprends
fait.
Bien.
Oui, tout à fait. Bon. En tout cas, une amplification du changement.
Donc, ce qui se fait ne vous paraît pas aller tout à fait dans la bonne direction.
Ce que j'ai pu observer à la fin de l'année dernière, c'est que des blocs de programmes baptisés, slash, au coup, etc., commençaient à être diffusés sur les antennes hertziennes et venaient en substitution des marques programmes précédentes, ce qui me paraît aller dans le bon sens. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Ce que je veux dire, c'est que quand... si vous considérez qu'Oku est une partie intégrante de France 5, la politique éditoriale d'Oku, vous allez la mettre en œuvre avec la vision de France 5, avec la puissance marketing de France 5. Ça ne va pas être un bloc exogène qu'on va venir rapporter sur la chaîne. Il y aura une cohérence éditoriale beaucoup plus forte. Par ailleurs, sur le plan strictement marketing, mais aussi sur le plan des coûts et des investissements, je pense qu'il est beaucoup plus vertueux d'adopter cette stratégie plutôt que de créer des marques numériques qui vont vivre en numérique dans leur coin, entre guillemets, sans puissance. Parce qu'il faut bien avoir en tête que la concurrence sur le numérique, c'est une concurrence ouverte. France Télévisions n'est pas le seul groupe à proposer de l'animation ou des programmes pour enfants sur le web. Donc je crois qu'il faut resserrer l'édifice et son organisation pour que les programmes au coût soient véritablement conçus par les gens de France 5 qui auront une vision très claire de ce qu'ils voudront en faire sur la chaîne.
Mais j'imagine que ceux ou celles qui ont fait différemment, qui ont au fond séparé davantage à la fois d'un côté le numérique avec Roku et de l'autre la chaîne, disons, correspondante ou ressemblante, avaient l'idée d'avoir deux approches différentes, enfin deux visions différentes, deux lignes éditoriales différentes. Donc cela, vous ne le retenez pas. Enfin, vous ne...
Je pense que c'est une étape du développement du numérique, ce qu'on a décrit, le fait de séparer les antennes et les plateformes, c'est une étape de développement. Probablement que dans la structuration des entreprises, il était nécessaire d'avoir des équipes dédiées qui travaillent spécifiquement sur les programmes distribués en digital. Je pense qu'aujourd'hui, le numérique n'en est pas à une phase d'expérimentation. Le numérique, il est au cœur de nos vies, des usages et de la production. Il faut donc maintenant réunir les deux mondes. Si on veut renouveler le public de France Télévisions, ce n'est pas en mettant des plateformes web à côté qu'on arrivera à le faire parce qu'elles ne seront pas suffisamment puissantes. Si on veut renouveler la structure d'auditoire de France Télévisions, il faut raisonner de manière intégrée. Alors, je n'ai pas voulu trop citer Radio France puisque j'en suis issu et donc pas très objectif peut-être par rapport au bilan qu'on peut en faire, mais c'est ce qu'on a réussi à Radio France. À Radio France, vous avez des équipes numériques qui sont dans France Inter. Et c'est la directrice de France Inter qui décide de lancer les podcasts de France Inter. Ce n'est pas une structure qui se situe à côté. C'est la même chose pour France Culture. C'est la même chose pour quasiment l'ensemble des chaînes de Radio France. Et je pense que comparaison n'est pas raison, mais il faut s'inspirer de ce mode de fonctionnement pour pouvoir aller plus loin. Et je suis persuadé, intimement persuadé, que le renouvellement des publics, qui est une priorité absolue pour France Télévisions, passera notamment par l'adoption de cette stratégie.
Très clair. Carole Bien-Aimé-Besse.
Merci, Monsieur le Président. Merci pour votre présentation. Je voulais revenir, moi, sur l'aspect éditorial. Donc, page 24, vous nous présentez, enfin, 24 et 25, finalement, la répartition éditoriale entre les différentes antennes. J'avais, moi, une interrogation, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on se redit, enfin, que vous vous redites un petit peu plusieurs fois, c'est-à-dire que France 4... la chaîne des adolescents et du jeune public avec une dimension éducative assez importante. Et de l'autre côté, vous avez France 5. Là, vous souhaitez en faire une chaîne familiale centrée sur l'éducation et la découverte. Est-ce que finalement, ce n'est pas déjà le cas pour France 5 qui, de toute façon, couvre effectivement pas mal l'aspect découverte et aussi documentaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une redondance entre les deux les deux chaînes? Et par ailleurs, concernant France 3, effectivement, vous mettez bien l'accent sur l'information, mais est-ce que finalement, ça ne va pas au-delà la régionalisation? Et sur France 3, dans la mesure où ça représente quand même une grosse partie des effectifs de France Télévisions, je voulais avoir votre sentiment sur l'organisation structurelle et savoir comment vous la verriez sous votre mandat.
Alors, pour ce qui concerne la répartition entre France 5 et France 4, la réponse est assez simple. C'est qu'on parle souvent des jeunes publics, mais en fait, les jeunes publics, ça ne veut rien dire. Il y a les enfants, c'est une chose, les adolescents, c'en est une autre, et puis les jeunes adultes, c'en est encore une autre. Donc, ce que je propose, c'est qu'il y ait une organisation assez cohérente par rapport à ce qu'on peut observer, d'ailleurs, dans la vie, bien au-delà de la télévision, en considérant que les enfants, c'était un ensemble qui devait être traité par France 5. J'insiste sur le lien générationnel parce que je pense que la télévision, elle a aussi pour mérite fort de rassembler les générations. Donc si on s'adresse aux enfants, on peut aussi s'adresser à leurs parents, voire à leurs grands-parents, pour France 5. En revanche, pour France 4, pour moi, le public est beaucoup plus adolescent et jeunes adultes. Donc je dirais que c'est le collège, le lycée et puis le démarrage de l'université, voire de la vie professionnelle. C'est une segmentation qui n'est pas révolutionnaire, je dirais, mais qui existe dans la vie de la consommation. Et on le voit bien dans les usages des différents types de publics.
Ce qui signifierait finalement, c'est un peu de dénaturer le France 5 d'aujourd'hui, qui est quand même assez documentaire et découverte. Parce que si vous parlez d'enfants, j'imagine que vous allez rapatrier toute l'offre jeunesse du groupe. Je pense à l'animation... preschool ou d'ailleurs qui s'adresse souvent au moins de 8 ans. Est-ce que c'est votre objectif ?
Mon objectif, en effet, c'est de, entre guillemets, rapatrier une forte partie de l'offre d'animation pour enfants sur France 5, sachant que ce que je propose par ailleurs, c'est de développer l'animation pour les jeunes adultes. Parce que je pense qu'il y a, à travers le roman graphique notamment, de formidables opportunités. Oui, en effet, c'est ce que je compte faire. Je pense qu'il faut simplement regarder la programmation de France 5. Il y a des moments clés pour les enfants, dans, on le sait bien, dans la programmation. Par ailleurs, je pense que les documentaires de découverte peuvent rassembler la famille. Je pense que ce qui, aujourd'hui, pêche sur France 5, c'est la surabondance de magazines de société. De mon point de vue, les magazines de société sont plutôt l'apanage de France 2 ou de France 3, le cas échéant, et moins de ceux de France 5. Il y a un peu un paradoxe. C'est vrai qu'on pense assez dans l'air, qui est un magazine de grande qualité et qui fonctionne plutôt. Je ne suis pas persuadé que c'est dans l'air, ce soit dans la fonction de France 5. D'ailleurs, au départ, ça n'était pas forcément dans la bible éditoriale de France 5. Il y a manière, je pense, de procéder différemment.
Et sur France 3 ?
Sur France 3, je crois que le j'ai pas de différence d'appréciation sur l'organisation de France 3 par rapport à la logique de régionalisation qui a été mise en œuvre et que je soutiens. Je pense que France 3 doit se régionaliser. Donc le fait d'avoir réorganisé l'entreprise de ce point de vue-là me paraît de bon sens. Je pense qu'elle permet à la fois à l'information et au programme d'être plus opérante, plus efficace pour le public. Je parlais des synergies avec France Bleu. J'ai expliqué dans mon projet qu'on pouvait aller encore un peu plus loin pour que la régionalisation soit forte, pas seulement dans les matinales, mais en matinée, en coopération avec France Bleu, que France 3 prenne le relais à l'heure du déjeuner avec une offre d'infos régionalisée, que dans l'après-midi, les programmes régionaux soient mis en avant. Et puis, j'ai parlé de l'évolution possible du journal régional à 19h, que je verrais bien allonger jusqu'à 20h pour différencier les offres avec France 2. Mais c'est évidemment une mesure structurelle importante qui devra être mise à l'étude. Mais je pense que ça clarifierait l'offre de France 3. Voilà. Ensuite, on parle beaucoup des strates sur France 3, du fait que il y a probablement des strates de cadre de management qui interfèrent. Franchement, je ne me prononcerai pas sur la question parce qu'avant de regarder les choses de l'intérieur, on ne sait jamais vraiment comment ça se passe et comment c'est organisé.
Merci. Michel Leridon.
Merci. Merci à vous. J'ai deux questions très différentes. La première concerne la distribution sur les plateformes externes et sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que, si j'ai bien compris, vous souhaitez généraliser ou en tout cas développer fortement. Est-ce que vous ne craignez pas un risque de cannibalisation par rapport à l'audience en linéaire? Est-ce que ça servira d'appât ou au contraire, est-ce que finalement vous vous priverez d'une certaine audience? Et en termes de monétisation, ça peut avoir aussi des conséquences. Et ma deuxième question porte sur France Info, puisque vous écrivez page 25 qu'en gros, elle n'a pas trouvé le bon rythme. Vous dites même qu'elle est à contre-temps. Donc, voilà, comment est-ce que vous expliquez est-ce que vous pouvez développer cet argument et surtout dire ce que vous proposez et si vous proposez quelque chose d'encore plus rapide et encore plus dans le direct, comment vous voyez une singularisation de France Info par rapport aux trois autres chaînes d'information continue en France?
Alors, pour ce qui concerne la distribution, je reprendrai votre terme. Je pense qu'il faut utiliser les plateformes tierces, comme appât. On ne peut pas ne pas être présent des plateformes tierces en termes de visibilité, ne serait-ce que pour se faire connaître d'un public dont les usages, on le sait, ne vont pas naturellement vers la télévision aujourd'hui. Donc la logique de présence sur ces plateformes, il faut en effet l'avoir de cette manière. Il faut se servir de ces plateformes pour qu'elles soient des plateformes de visibilité pour l'ensemble de l'offre et faire en sorte que ces audiences soient rapatriées, même si c'est 10 ou 15%, c'est déjà pas mal, vers les plateformes propriétaires. Pour ce qui concerne France Info, je pense que le parti pris de départ était de se dire on ne va pas faire une chaîne d'information comme les autres. Une chaîne d'information en continu, pardon, comme les autres. Et je pense d'ailleurs qu'il y a des choses positives aujourd'hui sur la chaîne. Mais la manière dont elle est fabriquée, constituée, l'a empêchée jusqu'à présent d'être dans le rythme d'une chaîne d'information en continu. Et à un moment donné, on ne peut pas être hors champ. Ça veut dire qu'il faut savoir quand partir en spécial, par exemple. Sans doute que pour partir en spécial, il faut avoir du flair et être en spécial avant les chaînes généralistes. Quand toutes les chaînes généralistes sont sur un événement, est-ce qu'il est bien nécessaire de continuer à être autant sur l'événement ? Donc je pense que c'est vraiment un problème de réglage. Il y a eu la volonté au départ de faire de France Info une chaîne différente, avec des partis pris de réalisation qui étaient esthétiques, mais qui sont, je crois, techniquement un peu compliquées quand on veut faire une vraie chaîne d'information. Donc ce que je suggère, c'est qu'elle soit dans le bon rythme. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir une direction de la chaîne qui soit dans le tempo de l'info en continu. Et puis je crois que la valeur ajoutée de France Info, c'est quand même normalement la richesse de son tissu d'expertise. France Info doit avoir accès à la richesse, à l'expertise de la rédaction de France Télévisions, et doit avoir accès aussi à l'expertise des reporters de France Média Monde. D'ailleurs, je trouve que les synergies sont plutôt opérantes de ce point de vue-là. Donc je crois que c'est vraiment un problème de rythme. Il faut être dans le jeu des chaînes d'information continue, ce qui ne veut pas dire qu'on va vers le sensationnalisme ou l'artefact en matière d'information.
Nicolas Curian. Merci. Page 28 du rapport, et ensuite vous l'avez rappelé dans l'exposé oral, vous mentionnez la nécessité de moderniser la plateforme TNT pour la maintenir compétitive avec les autres modes de distribution numérique. Comment vous voyez le calendrier ? Comment vous voyez le rôle moteur de France Télévisions dans cette transition ? Comment vous voyez le jalon des Jeux Olympiques pour la production d'images UHD ? Est-ce que vous pourriez nous faire part de vos impressions là-dessus ?
Alors, je ne suis pas ingénieur de formation, donc je ne vous répondrai pas nécessairement sur le plan purement technique. D'abord, pourquoi je pense que c'est important ? C'est important parce que, on le sait bien, les rapports du CSA le montrent, grosso modo, il y a 20 à 25% de la population qui regarde la télévision purement et simplement avec la TNT, en exclusivité. Ça ne veut pas dire que la TNT n'est pas regardée par des gens qui sont abonnés au câble ou au satellite, mais en tout cas, il y a des gens pour lesquels c'est le support de diffusion exclusif. Ce public, évidemment, s'acquitte de la redevance. Et je pense qu'il n'est pas pensable ou concevable que ce public n'ait pas accès à des conditions de confort d'écoute qui soient à l'unisson de ce qu'on observe par ailleurs. Donc c'est vraiment le fondement, je pense, du raisonnement. Ensuite, si j'ai évidemment parcouru les rapports en question, on sait bien que ce n'est pas forcément simple. Il y a une question de débit. Il y a une question aussi de chaîne de production qui doit être un peu à l'unisson pour que le téléspectateur puisse y avoir accès quand il regarde la télévision via ce mode de diffusion. Je crois que vous l'avez dit, les JO de 2024, ça doit motiver l'ensemble du marché pour drainer la télévision numérique terrestre vers l'ultra haute définition. Donc, je crois que voilà, le CSA a organisé une consultation sur le sujet. Je pense qu'il est important que France Télévisions, comme service public, soit moteur, ce que j'ai expliqué, je crois, assez clairement dans cette transition. Il ne peut pas y avoir, pour caricaturer, je dirais qu'il ne peut pas y avoir une télévision du riche et une télévision du pauvre. Une télévision du riche qui serait réservée à ceux qui peuvent s'abonner au câble et au satellite, ou qui regardent la télévision par la 5G, et puis ceux qui utilisent le canal la TNT, qui est neutre d'un point de vue technologique, qui permet d'être tout à fait souverain, ça serait tout à fait illogique et un contresens par rapport à ce que c'est que le service public.
Jean-François Marie. Oui,
monsieur le Président. À un moment de votre rapport, vous exprimez une critique générale contre ce que vous appelez l'infotainment. Alors, c'est un sujet général qui, d'ailleurs, donne lieu à des réflexions au CSA, notamment avec Michel Léridon, mais sans vous demander de nous dire qui vous visez en particulier, comme vous souhaitez la suppression de ces émissions dites d'infotainment dans ce même rapport, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus.
Très concrètement, je visais personne en particulier.
Non, je ne demande pas de nom. Hein.
Mais bon, il se trouve que là, l'émission On n'est pas couché s'arrête à la rentrée. De mon point de vue, cette émission aurait dû être arrêtée il y a bien longtemps. Parce que on voit bien l'intérêt que ça peut représenter pour ceux que les relations presse intéressent. Mais selon moi, le mélange des genres brouille les codes. Je pense que l'information doit être faite par des journalistes dans le cadre des émissions et des programmes d'information, Et je pense que le divertissement doit être fait par les gens qui s'occupent du divertissement. Et il faut être très radical sur le mélange des genres. Je pense que par le passé, le fait d'avoir invité des femmes ou des hommes politiques dans des émissions de divertissement n'est pas forcément une bonne chose. Je crois vraiment qu'on n'est plus dans la situation d'il y a 5 ou 10 ans. Les enjeux autour de l'information sont trop importants pour qu'on puisse continuer de brouiller les codes de cette façon-là. Je crois que c'est... La question, c'est de savoir qui fait quoi, finalement. Et je crois que c'est aux journalistes de produire l'information, et puis c'est aux producteurs animateurs de produire du divertissement. Mais pas de pas mélanger les genres.
Merci.
Très bien. Écoutez, nous arrivons au terme de cette première heure d'audition. Donc je vous propose qu'on fasse une pause de 5 minutes, le temps que les personnes ici présentes quittent la salle pour qu'on puisse basculer en formation de huis clos. Et donc, nous reprendrons dans 4-5 minutes.